France Inter.
Bonsoir Amélie Perrier.
Bonsoir à tous. Le président français s'envole vers le Proche-Orient, on l'apprend cet après-midi, et au-delà du geste diplomatique pour soutenir le cessez-le-feu entre le Hamas et Israël, cela pourrait avoir des conséquences sur la formation du gouvernement, le cornu 2. Le Premier ministre doit-il accélérer ou gagne-t-il du temps? Au moment où son socle commun n'a jamais paru aussi fissuré, les noms d'oiseaux ont volé ce matin chez LR. À Gaza, 500 000 habitants profitent de la trêve pour rentrer chez eux ou ce qu'il en reste dans le nord du territoire. Les ONG se tiennent prêtes à livrer des tonnes d'aide humanitaire. À Madagascar, une partie de l'armée fait sécession et a manifesté aujourd'hui avec la génération Z. Et deux cousins ont frappé très fort au Masters 1000 de tennis de Shanghai. Ces deux natifs de la Côte d'Azur viennent de se qualifier pour la finale, éliminant chacun de leur côté Djokovic et Medvedev. Le temps, Céline Dacosta, demain on prend les mêmes et on recommence.
Oui, parce qu'on aura sensiblement la même carte qu'aujourd'hui, avec un petit peu de grisaille le matin et puis du soleil quasiment partout une fois qu'elle se sera dissipée.
Météo complète à la fin de ce journal.
France Inter.
19h et un Premier ministre devant une page blanche pour composer son gouvernement. Sébastien Lecornu, au premier jour de son second mandat à Matignon, remissionné par Emmanuel Macron. Un président de la République qui annonce cet après-midi qu'en pleine crise politique, il part en Égypte rejoindre Donald Trump pour soutenir son accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Bonsoir Laurence Perron.
Bonsoir.
Pas de président lundi matin à Paris, donc ça veut dire qu'on n'aura pas de gouvernement avant ce retour d'Égypte ?
Alors, foi de constitutionnaliste, Benjamin Morel, pour rendre à César ce qui est à César, il n'existe qu'un précédent d'un gouvernement nommé alors que le président de la République était à l'étranger, et c'était sous la Troisième République. En revanche, lors de la crise de Mayotte, un conseil des ministres s'était tenu avec Emmanuel Macron à bord de l'avion présidentiel, donc ça c'est possible. Mais l'autre hypothèse, vous le disiez, serait que Sébastien Lecornu prenne son temps, ce qui ne l'empêchera pas toutefois de proposer une copie budgétaire lundi, puisqu'elle est prête et qu'elle peut passer en loi spéciale.
Et Sébastien Lecornu, on a peut-être besoin de ce temps supplémentaire pour rebâtir un socle au moment où les anciens alliés de la droite LR sont au bord du divorce, Laurence.
Oui, Algarade Fleury, interpellation virile. Ce fut chaud. En effet, témoigna un député qui participait à la réunion en visio. Dans le champ de ruines actuel, on distingue à LR deux lignes. Celle portée par le chef, Bruno Retailleau, qui estime que les conditions ne sont plus réunies pour participer au gouvernement. Et celle portée par une partie des députés emmenés par Laurent Wauquiez, qui ont tellement peur d'une dissolution qu'ils sont prêts à tout. Nous décryptait ce midi Florence Portelli, vice-présidente LR des maires ruraux de France. Les ministres démissionnaire également. Annie Genevard n'entend pas lâcher l'agriculture, pas plus que Rachida Dati la culture ou Yannick Noder la santé. Un cadre du parti abonde. Non mais même les centristes de l'UDI ont dit qu'ils n'iraient pas et nous la droite, vous imaginez qu'on va valider les options d'un gouvernement qui se bat pour l'inverse de ce que nous on croit. On va se trouver peut-être avec un Lecornu qui va suspendre la réforme des retraites pour complaire aux socialistes et nous, on accepterait cela.
Et dans ce chaos, Laurence, Sébastien Lecornu tente peut-être de se tourner vers la gauche et les socialistes en particulier.
Il y a eu cette petite phrase ce midi au cours de sa visite au commissariat de L'Haÿ-les-Roses.
Je crois que tous les débats sont possibles dès lors qu'ils sont dans un cadre réel et réaliste, y compris sur les questions budgétaires, sur les questions là. Mais vous savez, dans Le Parisien, il y a 3 semaines ou 1 mois, j'avais dit que la réforme Borne n'était pas achevée. Personne ne l'a relevé.
Pas de quoi acheter l'annonce censure des socialistes à ce stade. Mais les proches de François Hollande, qui œuvrent en sous-main pour ne pas arriver à l'extrémité d'une dissolution, les plus hostiles à celle-ci, veulent y voir une ébauche de compromis.
Merci beaucoup Laurence Perron, service politique de France Inter. Quand le Proche-Orient s'immisce donc dans notre agenda politique, un accord de cessez-le-feu, on ne peut plus fragile. Le Hamas menace ce soir de ne pas participer à la signature officielle et refuse de déposer les armes. Les Gazaouis, eux, n'ont pas attendu. 500 000 d'habitants du nord du territoire sont rentrés chez eux depuis hier, ou du moins là où ils vivaient, mais où leur immeuble, leur maison a peut-être été réduit en cendres sous les bombardements incessants de l'armée israélienne depuis 2 ans, depuis l'attaque du 7 octobre du Hamas. Au milieu des ruines, l'aide humanitaire est plus que jamais indispensable, et les ONG comme les Nations Unies affirment être prêtes. Tamara Al-Rifai est la directrice de la communication de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens.
Nous espérons vraiment que l'UNRWA, la plus grande agence humanitaire en action à Gaza, puisse accéder, faire entrer nos camions, faire entrer de la nourriture, du matériel médical, du matériel d'hygiène, surtout pour les femmes et pour les adolescentes. Les Gazaouis ont besoin de tout. Nous avons en ce moment de quoi pourvoir toute la population de Gaza pendant 3 mois en nourriture et en divers produits d'hygiène, des tentes, des couvertures. Nos stocks sont dans des entrepôts en Jordanie et en Égypte. Nous sommes interdits par le gouvernement israélien de faire entrer nos camions, alors même que le monde observe cet accord, observe la mise en œuvre de cet accord. C'est le moment pour une grande action, une action à grande échelle humanitaire.
Tamara Al-Rifai de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, elle répondait à Christian Chéneau. Le Hamas doit également libérer lundi tous les otages qu'il retient encore, 48 Israéliens vivants ou leurs dépouilles, tandis qu'Israël doit relâcher 250 prisonniers palestiniens. Les autorités israéliennes les ont rassemblés aujourd'hui dans 2 prisons en Cisjordanie occupée et dans le sud d'Israël. Donald Trump sur tous les fronts, le locataire de la Maison Blanche s'est occupé cet après-midi de l'Ukraine également, au téléphone avec Volodymyr Zelensky, le président ukrainien l'a félicité pour son succès au Moyen-Orient et espère un même sort pour sa région. Un entretien très positif, a précisé Zelensky. Des nouvelles peu rassurantes en revanche du prédécesseur de Donald Trump, l'ex-président Joe Biden suit une radiothérapie pour son cancer de la prostate, annonce son porte-parole. Le démocrate avait renoncé à se représenter à la présidentielle l'an dernier et en mai, il avait été diagnostiqué d'une forme agressive d'un cancer de la prostate avec des métastases osseuses. À Madagascar, une partie de l'armée change de camp. Des militaires ont rejoint des manifestants dans la capitale aujourd'hui et un contingent a appelé les forces de sécurité à refuser les ordres à tirer sur la population. Les marches d'aujourd'hui sont les plus importantes des derniers jours à l'appel de la Gen Z, la génération Z. Ces jeunes qui ont d'abord protesté contre des coupures d'eau et d'électricité avant de remettre en cause plus largement le pouvoir et le président malgache. Notre correspondante Sarah Teto s'est rendue dans les manifestations aujourd'hui.
C'est sous les hurlements de joie et de coups de sifflet que les milliers de manifestants ont pénétré sur la place du 13 mai en fin d'après-midi. Drapeau malgache à la main, ils scandaient des « merci » aux militaires. Du haut de son blindé, au milieu d'une foule compacte, le colonel Michael Ranjanirin prend la parole au micro. « Si je n'étais pas chrétien, dit-il, ce serait œil pour œil, dent pour dent. Mais je suis chrétien. Je dis alors à tous ceux qui ont demandé aux gendarmes de tirer sur la foule depuis 2 semaines, le président de la République, le commandant de la gendarmerie, le premier ministre, il faut qu'il quitte le pouvoir. Est-ce un putsch ? Lui demande alors France Inter. Je ne sais pas, rétorque-t-il. La foule l'acclame et se met alors à nouveau à scander les désormais habituels « Mia la Radzouen, dégage Radzouen », un message adressé au président de la République. Ce soir, difficile encore d'y voir clair. Les militaires semblent s'être rangés du côté de la population. Les prochaines heures seront décisives pour le pays. Au moins 22 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations le 25 septembre dernier et ont fait plus d'une centaine de blessés d'après un premier bilan des Nations Unies. À Antananarivo, Sarah Teto pour France Inter.
France Inter, Amélie Perrier.
Les choix politiques et budgétaires du gouvernement, les associations en paient le prix fort. Elles manifestaient aujourd'hui pour appeler les pouvoirs publics à les préserver, à ne pas faire les frais des économies demandées pour réduire la dette publique. Le secteur associatif inquiet et en colère. Des rassemblements ont eu lieu dans plus de 70 villes et à Paris, Mathilde Cariou était dans le cortège.
Pas de dignité low cost, peut-on lire sur la pancarte des enfants du canal, association d'aide aux personnes mal logées.
On a de plus en plus de monde, on a de moins en moins d'argent.
Samira El Alaoui, la présidente, n'a toujours pas reçu la subvention du mois d'octobre.
Bon, ce mois-ci, je ne vais pas pouvoir payer les loyers, je ne vais pas pouvoir payer les charges, je ne vais pas pouvoir payer les prestataires. Ma priorité, c'est les salaires.
Même discours dans le secteur médico-social. Aude Bourdin est salariée chez APF France Handicap. Faute de budget, l'association a dû renoncer à son service d'aide à domicile.
On est obligé de les transmettre à d'autres et on ne sait pas s'ils accompagneront de la même manière des personnes notamment pluri- ou polyhandicapées qui ont un handicap plus lourd que d'autres.
APF vient par ailleurs de subir un plan social et redoute les coupes budgétaires à venir. Sans ministre, nous dit Aude, c'est encore pire.
Forcément, puisqu'on n'a pas d'interlocuteur avec qui discuter de toutes ces problématiques-là, on n'a pas de budget, on ne sait pas où on va.
Nous aussi, conclut-elle en blaguant, on a le corps nu. Un tiers des associations françaises à moins de 3 mois de trésorerie en réserve.
Le reportage de Mathilde Cariou. Notre-Dame de Paris, menacée d'un carnage, c'est en tout cas le contenu d'une lettre retrouvée dans la cathédrale hier après-midi. L'auteur, inconnu pour l'heure, annonce une attaque au couteau prévue ce week-end. Bonsoir Charlotte Piret.
Bonsoir.
Les autorités n'ont toutefois pas fermé Notre-Dame.
Non, c'est une lettre anonyme, retrouvée aux alentours de 17h hier près des cierges de l'immense cathédrale. À l'intérieur, un message d'alerte priant de ne pas ouvrir l'édifice religieux ce week-end car, toujours selon le message, des couteaux y avaient été cachés ces derniers jours et des visiteurs étrangers s'apprêtaient à faire un carnage. La menace, retrouvée par un sacristain, ne paraît pas suffisamment sérieuse ou étayée au service de sécurité de la cathédrale. L'édifice n'est donc fouillé, mais pas évacué de ses visiteurs. Hier, ils sont en moyenne plus de 30 000 par jour. Et ce matin, une nouvelle inspection de la cathédrale a eu lieu par les services de sécurité, mais aussi des agents de police cette fois. Aucun risque détecté, là encore. Notre-Dame de Paris a ouvert ses portes comme prévu. À ce stade, aucune enquête n'a par ailleurs été ouverte, contrairement à une précédente lettre de la sorte qui évoquait alors un attentat dans la cathédrale en avril dernier, même si les responsables de cette cathédrale se réservent encore le droit de porter plainte, selon la préfecture de police de Paris.
Merci Charlotte Piret du service police-justice de France Inter. Le tribunal administratif de Marseille ordonne la réouverture, lui, de la mosquée des Bleuets. L'instance a suspendu l'exécution de l'arrêté ordonnant la fermeture pour 2 mois, arrêté pris par la préfecture à cause des positions de son imam jugé trop radical. Le tribunal administratif considère que la fermeture de la mosquée porte atteinte à la liberté fondamentale du culte et les propos de l'imam sur les réseaux sociaux, anciens ou plus récents, ne présenteraient pas une menace actuelle de provoquer la haine ou la violence, ajoute le tribunal. Une très grande partie des lycées de Hauts-de-France attaqués par des pirates informatiques. Près de 80% des lycées de la région ont été ciblés par un rançongiciel, indique l'Académie. Les ENT, les environnements numériques de travail, ne sont pas affectés. La continuité des cours est assurée, mais des fonctionnalités sont inaccessibles pour l'instant. La région Hauts-de-France a déposé plainte. Plus de 70 000 volailles ont péri en Vendée dans l'incendie d'un bâtiment d'élevage à Ménomblé. Le feu a pris tôt ce matin et a pu être arrêté par les pompiers avant de se propager à d'autres bâtiments. Direction la Chine maintenant, le Masters 1000 de Shanghai. Et la famille a fait fort. 2 cousins viennent de se qualifier pour la finale du tournoi en battant rien de moins que l'ex numéro 1 mondial Daniil Medvedev et la légende Novak Djokovic. Le français Arthur Rinderknecht, 54e mondial, s'offre sa première finale en Masters 1000 face à Valentin Vachereau, 204e mondial. Bonsoir Fabrice Abraham.
Bonsoir.
Notre spécialiste du tennis. Énorme surprise, immense émotion également pour les 2 cousins novices à ce niveau.
Ouais, tellement novices que pour l'un des deux, ce sera demain un premier titre en carrière. Arthur Rinderknecht et Valentin Vachereau ne sont plus des espoirs. Le français a 30 ans, le monégasque 26. Ils sont cousins, mais ils se considèrent comme des frères et ils ont un parcours similaire. Ils sont passés tous les deux par le système universitaire américain avant d'intégrer le circuit professionnel. Mais leur carrière est diamétralement opposée. Arthur Rinderknecht appartient au top 100 mondial depuis 2021. Valentin Vachereau, jusque-là, menait une carrière discrète, écumant dans l'ombre des tournois Challenger. Vous savez, c'est l'antichambre du circuit principal. Il est en finale, mais il n'aurait jamais dû jouer ce Masters 1000. Son modeste classement ne lui permettait pas, en effet, d'intégrer le tournoi. Mais il a profité de plusieurs forfaits pour finalement y entrer. Avant Shanghai, il n'avait gagné cette année qu'un seul match sur le circuit principal. Là, en Chine, il en a gagné 8, qualification comprise. Valentin Vachereau est 204e, vous l'avez dit, et il est le joueur le moins bien classé à se hisser en finale d'un tournoi Masters 1000. Il est assuré aussi de repartir, écoutez plutôt, au moins avec un chèque de 597 000 dollars. Mmh. C'est 3 000 dollars de plus que son total de gains cumulé depuis le début de sa carrière en 2021. Alors Arthur Rinderknecht, lui, peut devenir demain le 5e français à remporter un Masters 1000 après Forget, Piolin, Grosjean et Joe Wilfried Tsonga, le dernier à l'avoir fait. C'était à Toronto en 2014, il y a 11 ans.
C'est déjà un joli coup, merci Fabrice Abraham. La finale, c'est à 10h30 demain, heure française. En revanche, pas vraiment de surprise dans le Tour de Lombardie. Tadej Pogacar s'est imposé haut la main pour la 5e année consécutive. L'exploit reste inédit et conclut une saison de classique absolument phénoménale pour le Slovène. Et avant de se quitter, oui, l'actualité s'avère parfois lourde, dramatique, parfois affligeante aussi. On est de plus en plus nombreux à éprouver le besoin d'en rire. Ainsi de la crise politique actuelle. Si l'on dit parfois les Français lassés des guerres guerre d'ego et de parti, des manœuvres et des ultimatums, cette folle semaine politique a généré sur les réseaux sociaux une avalanche de détournements, de blagues et d'inspiration pour les humoristes. Bonsoir Julien Baldacchino.
Bonsoir.
Parfois, mieux vaut en rire.
Oui, depuis hier, les traits d'humour et les parodies fusent. Sur Instagram, l'humoriste Tristan Lopin a envoyé un faux SMS à Emmanuel Macron, retourné avec son ex. Je cite, 4 jours après la rupture, c'est jamais une bonne idée. Et sur TikTok, le créateur Nap a posté ceci dès hier soir.
Le nouveau Premier ministre est... Ah bah c'est pas trop tard, j'allais dormir. Sébastien Lecornu. Je me suis dit que ça allait apporter un vent de fraîcheur. Il est arrivé, il est parti, il est revenu, il est reparti... Et il est de nouveau là.
C'est aussi un festival de références et de parodies. La passation de pouvoir à venir est montrée comme cette image où deux Spider-Man se pointent mutuellement du doigt et on entend des dizaines d'extraits de films et de sketchs comme ici Astérix et Obélix.
On me voit, on ne me voit plus.
Ou là, l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui partage ce sketch de Raymond Devos tout à fait à propos.
Et s'en remettant toujours au lendemain la catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que nous l'éviterons.
En musique, le groupe Lego Get, spécialisé dans la parodie politique, a lui aussi réagi très vite aujourd'hui avec un hommage à Jeanne Moreau.
C'est le cornu, aidez le cornu.
Mais ceux qui s'en sont le plus donnés à cœur joie toute la semaine, c'est le site parodique Le Gorafi, qu'il y a quelques jours avant la nomination de Sébastien Lecornu, titré « Afin de concilier tous les partis, le prochain Premier ministre sera un appareil à raclette ».
Merci Julien Baldacchino pour ce sourire. Allez, on termine avec la météo.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonsoir Céline Dacosta.
Bonsoir Amélie, bonsoir à tous.
Le soleil sera déjà généreux demain matin sur le sud du pays.
Oui, parce qu'au nord d'une ligne reliant la Vendée aux Alpes, là le scénario sera différent. La grisaille sera encore présente au lever du jour et elle devrait se dissiper lentement avant que le soleil ne parvienne à s'imposer. L'après-midi, on aura quand même toujours des nuages bas, des plages normandes aux Ardennes ou encore sur le Val de Saône, un petit peu comme aujourd'hui. Et peut-être quelques averses isolées sur les Pyrénées, mais partout ailleurs, le temps sera calme et ensoleillé.
Avec des températures stationnaires.
Oui, semblable à celle d'aujourd'hui. Le matin, 6 à 10 degrés sur la moitié nord, 8 à 12 plus au sud, jusqu'à 17 près de la Méditerranée. Puis l'après-midi, la moyenne ira de 17 à 22 degrés pour la moitié nord, 22 à 24 degrés plus au sud, avec des pointes jusqu'à 26-27 entre Toulouse et Montpellier.